Personne va au théâtre, Nathalie.
Ce n'est pas vrai.
Ben non, mais
je vais au théâtre. Et je ne suis pas toute seule quand je vais au théâtre.
Mais non, j'imagine bien. Ça doit être gratuit, j'imagine.
Aïe, aïe. Ça commence. Dieu, moi, je suis exilé là, comme ça à l'extérieur parce que j'ai encore une bonne grippe. Et je vois que vous prenez le relais pour chicaner ou en tout cas rire de Nathalie Petrovski, Olivier.
Oui, ouais, bien. Olivier,
toujours
franchement.
Là, toujours prêt. Ah.
Mais faites bien, faites bien. Évidemment, bon, moi, je ne suis pas sûr que je vais passer l'émission. Là.
Un autre.
Mais non, non, mais c'est, tout le monde a la grippe, paraît-il. Mais
non.
Juste ça, on va faire maintenant. Ça,
non, non,
ça fait 4 ans
que
tout le monde a la grippe.
Vous avez la grippe, que tout le monde a la grippe. Le monde ne tourne pas autour de vous, Jean-Philippe.
Oui.
OK, vous
êtes,
là?
Vous êtes bien la seule.
Un... Encore une fois.
Ouais, c'est ça.
C'était pas un gag la semaine passée.
Oui,
c'est
un gag
la semaine passée. Nathalie, oui. Vous avez vu, hein, Belle a renvoyé plein d'employés. Là.
Oui, je compatis avec eux.
Oui, non, mais vous souriez.
Avec un grand sourire.
Oui, c'est ça.
Oui. Ben oui, parce que moi-même, je me suis fait renvoyer, mais il y a 24 ans.
24 ans?
De Belle?
Non, pas de Belle, de CKC.
Vous... Ah oui, vous avez déjà perdu votre job?
Moi, j'ai déjà perdu ma job grâce à Sylvain Chamberlain, votre ami, votre invité.
Ah. Ah oui, c'est vrai, on va parler à Sylvain. Sylvain, Sylvain, oui.
Mais Chamberlain, plus de votre faute que de la sienne.
Qui a acheté toutes les stations. Mais on va le dire, il a acheté pas toutes les stations, mais il a acheté quelques stations que Belle a décidé de vendre, des stations régionales. Mais c'est donc, ça. Sylvain Chamberlain, qui est un patron de radio, clairement, maintenant... vous avez sacré dehors, j'imagine, avec justesse.
Oui, mais surtout, mais quand même, je lui avais un peu rendu la monnaie de sa pièce parce qu'il m'avait forcé, donc il m'annonce ça au mois de mai, mais il me force à rester jusqu'à la fin juin. Et j'y ai dit, ben non, je resterai pas. Ben il dit, t'es obligé parce que t'as un contrat. Ben j'ai dit, tu sais quoi, Sylvain, je l'ai pas signé ton contrat. Fait que je suis partie. C'est doux.
Eh ben, l'élégance.
Hein? C'est un petit loophole, comme on dit.
Oui, c'est un loophole.
Bon, on n'a pas le temps de parler de beaucoup de choses là, durant l'émission officielle, là, mais je veux qu'on parle de Taylor Swift.
Oui!
Non, bon, là, on fait des petites blagues. Là. Taylor Swift là, qui a gagné un autre... comment on appelle ça, ce prix-là? Là?
Un Grammy.
Elle aurait pu au moins faire un petit sourire à Céline Dion.
Oui, complètement.
Ça, c'est un manque de respect.
Complètement.
Mais est-ce que c'est vraiment un record? 4 fois pour l'album de l'année?
C'est
ça?
La seule qui en a gagné 4 pour l'album de l'année. Laissez-moi parler de petit. Taylor Swift, c'est un peu mon terrain ici, on va se
dire. Non, parce que j'en parle tout à l'heure.
Ah, bon, mais c'est ça.
Parler de Taylor Swift.
Ouais. Beyoncé n'a jamais gagné l'album de l'année. Elle a battu Frank Sinatra, Paul Simon. Oh, j'ai entendu quelqu'un mourir dans le micro.
C'était quoi?
C'était Jean-Sébastien de l'Outre.
Ça doit être le petit Jeannot. Mais continue avec Taylor Swift.
Mais bref, c'est la seule qui en a gagné 4. Les autres en ont gagné 3. Et c'est la seule femme, d'ailleurs, qui est comme ça. Est-ce qu'on peut être content aussi?
Hein? Ben, j'aurais préféré que Beyoncé les gagne.
Blablabla.
Mais de toute façon, les Grammys, c'est un super show. Mais c'est toujours les mauvais prix. Ils donnent toujours les mauvais prix aux mauvaises personnes.
Ils se trompent de prix, ils donnent un Oscar.
La La Land prise 2.
Ouais, c'est ça. Voyons, ils sont bien mêlés.
Non, non. Une académie, c'est jamais parfait. Mais quand c'est Taylor Swift qui gagne, c'est parfait.
Mais Taylor Swift, là, j'étais choqué de voir que les gens...
Avec vos opinions.
Voyons.
Oui, allez-y, Oli.
C'est parce que j'entends sans cesse des gens chialer que quand ils écoutent le football, ça parle juste de Taylor Swift tout le temps. Puis là, dans votre journal,
secondes,
35 secondes en moyenne par match de 3 heures, c'est quand même pas si pire.
Ça, c'est des gens qui sont frustrés dans leur masculinité.
Ouais, ben, justement, mon collègue, Louis Morissette, c'est pas un ami, là, c'est vraiment un collègue, lui, il trouve que ça n'a pas de bon sens le nombre de fois qu'on voit Taylor Swift.
Et lui, entre la poire et le lavement, là, ça va. Là, comme,
ah, c'est bon, non, ça la poire.
C'est nouveau, ça?
Ben, ça ressemble à ça. Là.
Entre la poire et le lavement.
Ouais.
C'est
leur nouveau podcast.
Ouais. C'est entre la poire et le fromage. Ça s'appelle comme ça, mais évidemment, les gens rient.
Okay.
C'est pas très grave. Mais
lui, il trouve trop 35 secondes. Ça fait augmenter les cas de la NFL.
Il croit pas, en fait. Hein? Il croit pas que c'est seulement 35 secondes. Il est convaincu que c'est plus. De toute façon, on verra dans le Super Bowl. Vous nous en parlez tantôt.
Mettons que c'est 2 minutes.
Oui. That's it. Exactement.
Qu'est-ce que ça fait? Sur 3 heures, 3 heures et demie?
Non, mais c'est
ça attire des femmes. La NFL se renouvelle.
Ça attire des femmes.
Oui,
comme si on allait regarder.
Je te jure,
ça,
Nathalie.
Pour moi, Taylor Swift.
Les codes d'écoute chez les jeunes femmes ont
Taylor
augmenté.
Taylor Swift s'en vient. On reste ici.
Oui.
Ah ouais, on bouge pas.
Taylor Swift. Est-ce que vous aimez rien, Nathalie? Vous n'êtes pas fan. Vous n'êtes pas comme dans cet esprit-là.
Moi, je vais le regarder, le Super Bowl.
Mais vous allez le regarder pourquoi? Est-ce que vous connaissez ça, vous, le football?
Non, pas en tout. Mais c'est ça. Pas une raison.
Vous allez regarder ça pourquoi?
Parce que je vais vous le dire tout à l'heure. Taisez-vous.
OK. Ben voyons.
Hey, c'est ça, un
vous êtes bête, Saint-Anne.
C'est un vrai jeudi jaillit, j'adore.
Mais oui, j'adore. D'ailleurs, est-ce que vous êtes fâchés là, contre la bibliothèque là, de Côte-des-Neiges qui enlève les livres d'Élise Gravel là, dans ses rayons?
Mais moi, je peux pas en parler parce que j'en parle demain chez Pénélope à une émission sérieuse.
Vous allez nous faire un petit teaser, comme ils disent en anglais? Là?
Non, pas de teaser. Comment le teaser?
Mais c'est quoi votre opinion là-dessus?
Pour ou contre?
Pour ou contre ou quoi?
Ben, la républicaine d'abord là, qui brûle des livres avec son lance-flamme, les livres québécois. Ça, oui, ça. Vous pouvez en parler de ça?
Non, on en parle
pas. Un sketch.
Ça, c'est bien, par exemple.
Comme un sketch. On arrive. Oh!
Ah, c'est quoi ça?
Mais où se cache le tout petit Jeannot?
Bon, on va prendre des nouvelles hein, parce que si moi je passe pas à travers ma nuit, c'est peut-être Jeannot qui va me remplacer demain. Comment vous allez, Jeannot?
Ah ben là, rendu là, laissez faire, il me reste combien de temps, là?
Et il vous reste 20 secondes.
Ouais, c'est ça. Moi, je vais
pas parce que les gens sont tannés un peu là, de qu'on vous parle tous les jours, mais moi, j'y tenais.
Laissez-moi tranquille, j'ai rien demandé, moi.
Mais non, mais moi, je voulais vous parler parce que je vous aime, Jeannot.
Notre frère Jean-Philippe, mais vous avez pas l'air d'avoir la grippe pantoute, hein? Oh,
c'est vrai, ça.
Ben oui, mais j'essaie de travailler en fonction, là, d'être en onde.
Ouais, je vous entends. Vous avez plutôt l'air d'être dans un chalet avec une mousse, Jean-Philippe.
Je vous aime. Bisous.
Bye.
Il est 13h06 et tout le monde a la grippe à la journée. T'es encore jeune sur Ici Première.
Mais non.
Mais oui, je vous jure. Pour les gens qui nous ont écoutés hier, bon, évidemment, Jeannot a toujours la grippe. J'ai toujours la grippe, je suis toujours en exil. Et si vous avez bien entendu l'émission, et je dis bien entendu, vous avez probablement entendu l'éternuement de Barbara Judith Caron,
oui,
qui a coulé dans le micro, évidemment.
Coulé, c'est pas juste coulé.
Ah non, non, il s'est passé éclaboussé le micro. Alors, je pense qu'on est dans une cellule de microbes, mais en même temps, c'est pour ça que je me suis éloigné. Je voulais pas contaminer Nathalie Pietrowski.
Hein? Oui, surtout
avec cet âge-là.
Exactement. Je suis très vulnérable, donc il faut faire attention.
Jeudi,
mais moi, je suis en parfaite forme. Hein?
Vous êtes toujours en parfaite forme. Oui. Hugo Dumont, vous êtes en parfaite forme aussi?
Complètement, complètement fru, complètement haï
bon.
Tout.
Bon. Ben, ça va bien parce que c'est les jeudis jaillis. Voilà. Mettez-nous ça en bouche, Olivier.
Olivier, nickel, 24-7.
Ouais, spécial transport aujourd'hui, puis on commence avec l'histoire de la mairie d'Outremont qui propose un nouveau règlement qui va interdire aux automobilistes de laisser tourner leur moteur pendant plus de 10 secondes lorsqu'ils sont à l'arrêt. Le maire d'Outremont n'a pas convaincu grand monde de la pertinence de son règlement en entrevue avec Annie Desrochers et Paul Arcand.
On n'a pas de données là-dessus, mais on voit beaucoup de voitures qui font rouler leur moteur.
OK, vous le voyez, mais vous ne l'avez pas documenté.
On n'a pas de données, non.
OK, comment on sait que quelqu'un est rendu à 15 secondes?
Nos inspecteurs et notre sécurité publique ont sur le territoire.
Mais de quelle façon, M. Desbois, chronomètre en main?
On observe 10 secondes et plus et on sait tout de suite si la personne respecte le règlement.
Qui va venir compter les secondes?
Nous avons des inspecteurs et la sécurité publique d'Outremont.
Il va se promener avec un chrono?
On va avoir toutes sortes de mesures.
Monsieur Des bois, avec tout le respect. C'est un show de boucan, votre affaire.
Ah.
Comme la boucan, oui, qui sort de nos exhausts. Donc, on ne sait pas trop s'il y a beaucoup de moteurs qui tournent et on ne sait pas trop comment on va appliquer le règlement. C'est un peu louche et personne n'a osé en parler, sauf Luc Ferrandez qui nous a expliqué que ce ne serait pas un règlement contre les GES, mais pour contrer les Juifs hassidiques.
Ce n'est pas un règlement environnemental. Et on s'entend, là, ça n'a rien à voir avec l'environnement, ça a à voir avec la communauté hassidique. Et tu sais, c'est encore là, le wokisme qui nous empêche de dire les vraies choses. Il y a un problème à Outremont. Il y a une communauté hassidique très importante qui reçoivent des visiteurs de New York qui arrivent avec des énormes véhicules, énormes, stationnés en double, puis en attente.
Oui, des véhicules en attente qui roulent sans arrêt. Malheureusement, le wokisme lui a empêché de dire ce qu'il vient de dire. Même chose pour tous les autres qui ont abordé la question, qui n'ont pas osé parler de cette affaire-là. C'est le cas de Mathieu Bock-Côté à Cube Radio qui a cédé devant les woke et qui a, lui, vu là-dedans plutôt une histoire de le symptôme de quelque chose de plus gros.
On est devant une manifestation de ce qu'il faut bien nommer la tentation autoritaire des écologistes. Il va falloir qu'on comprenne que nos démocraties sont en danger de l'intérieur, puis parmi les idéologies qui détruisent nos démocraties, il y a l'écologisme autoritaire. La multiplication des règles et des normes, tout ça, ça fait une société de plus en plus étouffante et invivable.
Bon, si l'écologisme est étouffant, je vous suggère d'essayer le smog. Donc, laissez les chars rouler dans le beurre, menace la démocratie et de Dominique Moret de Radio X aussi est inquiet de cette dérive autoritaire.
À Outremont, qui a décidé de ces 10 secondes? On est devant un contingent de maudites momounes de maudites gangs de peureux et d'anxieux et de pas bons qui contrôle la société.
Oui, les moumounes contrôlent la société avec leurs petits poignets cassés de fer. Autre sujet de discorde. Ça a bien sûr été cette idée de diminuer les limites de vitesse à 30 km/h dans les rues de toutes les villes. En commission parlementaire, Moncef Deradji du Parti libéral s'est inquiété des effets pervers que ça pourrait avoir.
On parle toujours d'acceptabilité sociale. Au-delà du beau principe, les gens ne seront pas tannés. Déjà, on a de la misère à la sûre de la zone scolaire, mais on veut élargir au corridor scolaire. On ne veut pas avoir plus de rage au volant.
Oui, est-ce que forcer les gens à rouler moins vite pour entraîner plus de rage au volant? Mais j'ai l'impression que si on leur dit que ça met la démocratie en péril, peut-être. Peut-être aussi que ça pourrait faire rager ceux qui, comme Sylvain Bouchard, imaginent les prochaines tuiles qui vont s'abattre sur nos libertés après le 30 km/h.
Ça, tu sais où que les gens font le plus de chutes? Dans les escaliers. Les gens ont des maisons, 2 étages, 3 étages, 4 étages. Lâchez-moi ça, toutes des... à cette heure, on impose les maisons toutes sur le même étage. Ouais. Aucun escalier. On sauve des vies. On sauve des vies. On a des lois sévères sur les armes. Les guns, mais il n'y a rien sur les armes blanches. Trouvez-moi un couteau qui ne coupe pas.
Ah, si monsieur Bouchard cherche des couteaux qui ne coupent pas, je l'inviterai à passer à la cafétéria de Radio-Canada. À Québec, maintenant, on a annoncé l'aménagement de plusieurs kilomètres de pistes cyclables. Le maire Bruno Marchand a juré que ce n'est pas une guerre à l'auto, mais Jérôme Landry du FM 93 ne se laisse pas berner.
En passant, il y en a une guerre à l'auto à Québec, mais c'est juste qu'eux autres, ils l'appellent pas guerre à l'auto. Ils l'appellent réaménagement urbain. Ben. C'est quoi un réaménagement urbain? Ben, c'est enlever de la place aux autos, c'est mettre des plantes dans la rue, c'est mettre un piano dans la rue, c'est mettre des pistes cyclables, c'est mettre des trottoirs plus larges. C'est un peu le principe là, de la rue conviviale, si tu veux. Là.
Eh oui, les amateurs de bicycles à pédale font la guerre à l'auto à coups de pots de fleurs et de rue conviviale. C'est très insidieux, ça, Jean-Philippe. Et de piano, surtout. Reste qu'en conférence de presse, Bruno Marchand a dû répondre à des questions plus basiques.
Aujourd'hui, j'ai décidé de m'habiller en robe. J'avais la petite avec moi. Comment est-ce que vous me proposez de faire ça en février?
On vous propose pas.
C'est pas ça.
Ce qu'on vous offre, c'est ça. On vous offre un choix.
Bon, un dossier de régler. Aucune obligation de voyager à vélo en robe avec un enfant en février. Pas si autoritaire que ça, finalement. Sur la carte des nouvelles pistes cyclables, les journalistes ont aussi noté que la piste passait près de l'aéroport de Québec.
Dans quel contexte est-ce qu'un enfant de 7 ans puis une madame de 77 ans pourrait vouloir aller en vélo à l'aéroport?
Pour accueillir la maman qui revient de voyage de Toronto, par exemple, parce que la grand-maman de 77 ans gardait la petite de 7 ans. Mais quand on pense
à mais ils vont avoir des valises, tu sais.
Ben, ça dépend. On peut voyager léger quand on va à Toronto, par exemple.
Ah, voilà une explication qui devrait convaincre les gens du bien fondé des pistes cyclables. Si vous êtes une grand-maman et que vous gardez votre petite fille pendant que sa maman est à Toronto, ben, vous allez pouvoir aller la chercher en tandem. Et enfin, ma question préférée.
La carte. Il y a le point G, là, en bas.
Parlez-moi du point G.
Comment par le point G? C'est bien.
J'ai même pas fait exprès.
Un autre homme qui trouve le point G sans faire exprès. Je pense qu'on a enfin découvert une façon de rendre le transport actif sexy, Jean-Philippe.
Je vous remercie beaucoup. Une autre grosse tuile sur la tête du monde médiatique est tombée aujourd'hui. C'est Bell Canada qui nous annonçait qu'elle supprimait 4800 emplois. 45 stations de radio à travers le pays vont être vendues. Et il y a un petit malin qui a vu une opportunité là-dedans et qui a décidé de faire l'acquisition de quelques-unes de ces stations-là, des stations de radio dans les régions du Québec. C'est Sylvain Chamberlain, président et chef de la direction d'Arsenal Média. Bonjour Sylvain Chamberlain.
Bonjour à vous.
Merci de prendre le temps parce que cette annonce-là de Bell fait suite à, en fait, nous oblige à réfléchir sur l'avenir de la radio, évidemment, mais peut-être que vous avez vu quelque chose que Bell ne voit pas parce que quand on fait l'acquisition d'un marché qui, selon Bell, est en déclin, est-ce que ça veut dire que vous avez compris quelque chose que Bell n'a pas compris?
Je ne dirais pas comme ça. Par contre, nous, déjà, ça fait quand même 12 ans là, que l'entreprise existe, qu'on fait une consolidation des stations de radio en région, donc, parce qu'on y croit, évidemment. Donc, c'est dans le plan d'affaires. Si je ne les avais pas achetés, là, ça aurait été plus inquiétant d'une certaine façon. Ouais, ouais. Mais nous, on croit à ça. Deuxièmement, je suis en Europe en ce moment, justement au Radio Paris Show, là, show de Radio de Paris. Et il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de Français qui sont là. Et on avait une discussion justement sur l'intelligence artificielle, puis l'avenir de la radio, etc. Puis tout le monde a une forme d'inquiétude. Mais il y a une chose sur laquelle on est assez unanime, c'est que pour moi, la radio, en tout cas, ma vision, là, c'est, oui, bien sûr, c'est économique et tout ça, on comprend tout ça, mais on est une petite entreprise gérée quand même différemment, mettons, qu'une entreprise comme Bell, premièrement. Et deuxièmement, moi, ce que je pense fondamentalement, là, c'est que le lien entre un animateur et quelqu'un chez eux, ou quelqu'un dans son auto, ou quelqu'un n'importe où dans le métro, peu importe, ce lien-là est extrêmement difficile à défaire et à battre. Et autant au niveau de la télé, c'était prévisible que ça allait être difficile pour la télé à l'arrivée, par exemple, de Netflix et tout ça, parce que c'est un médium d'émotion. La radio est un médium de proximité. Et cette proximité-là, pour moi, elle a encore énormément de durée de vie dans les prochaines années.
Mais ça, c'est intéressant parce que la radio, si on regarde les codes d'écoute des radios, les codes d'écoute n'ont pas nécessairement beaucoup baissé en radio. Si on compare à ce qui s'est passé en télé, la radio reste encore un média, vous le dites, de proximité, mais surtout... j'ai l'impression, un média personnalisé, l'idée de garder des stations régionales, ça veut dire que ces stations-là peuvent avoir une identité régionale. Est-ce que ça rend la gestion plus difficile? Parce que la réalité, c'est qu'une grosse boîte comme Bell a tellement de stations de radio que peut-être qu'elle n'a pas les moyens, le temps d'aller la personnaliser pour la région en tant que telle, alors que vous, vous êtes rendu à quoi, une vingtaine de stations maintenant? L'objectif, c'est ça, c'est de leur donner une personnalité ou d'avoir un réseau global qui avec une marque homogène?
En fait, nous, on a déjà nos marques, premièrement, et c'est sûr que, par exemple, je vais prendre l'exemple des stations Bell qu'on achète en ce moment, c'est certain que, par exemple, à Rimouski, on va passer une émission de Montréal, réseau, puis bon, ben, c'est ce qu'on présente dans le retour à la maison. Ouais. Mais nous, le retour à la maison, il va être personnalisé. Donc, bien sûr, vous allez dire, ah oui, mais ça coûte plus d'argent. Oui, bien sûr que ça coûte plus d'argent, mais en même temps, nous, on est complètement décentralisé comme modèle. Nous, on n'a pas là un centre d'affaires à Montréal où tout le monde est là, puis là, on a 2-3 personnes perdues en région. Je dis, les gens sont la région, puis il y a 2-3 perdus dans le coin de Montréal. donc, en fait, c'est que on a des vice-présidents qui sont en Beauce, on a qui sont à Victo, il y en a qui sont à Joliette, il y en a partout, puis on est sur la Côte-Nord, etc. Et on a des plateformes hyper spécialisées en information qui parlent uniquement d'informations de la région. Fait que c'est sûr, les gens, ils s'intéressent, ils s'abonnent à l'infolettre, ils aiment ça. Donc, ça fait des vues, ça fait des ventes, etc., etc. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que notre modèle est plus que viable. Mais c'est certain qu'une station ou un groupe comme Bell n'a pas du tout la même vision que nous.
Puis, évidemment, l'idée étant que les petits joueurs, si on peut appeler ça un petit joueur avec une vingtaine de stations de radio, mais il demeure que ça reste un petit joueur comme vous, vous êtes capable de faire vivre de pérenniser la radio régionale?
Absolument, mais on l'a. D'ailleurs, il y a beaucoup des stations qu'on a achetées au tout début, qui étaient des stations qui étaient en difficulté financière, sinon même en faillite technique, et on les a gardées, ils sont effectivement devenus pérennes. Et la seule station qu'on n'a pas dans les 12 dernières années, qu'on a, si on veut, qui n'est plus dans notre portefeuille, c'est la station du Saguenay qui nous a permis d'acquérir les 3 stations en Abitibi.
La réalité pour votre entreprise, c'est quoi? C'est de devenir plus gros encore ou est-ce qu'on se satisfait? Parce que je lisais une entrevue que vous aviez donnée il n'y a pas très longtemps qui vous parliez du rêve d'avoir une vingtaine de stations de radio. Vous l'avez atteint, là, on est à 20 stations. Est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on grandit encore? Parce qu'à un moment donné, j'imagine que c'est la poule ou l'œuf. Plus on en a, moins on est capable de personnaliser.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Puis c'est certain qu'on va être très sélectif pour les prochaines acquisitions s'il y en a. Cela dit, c'est plus le modèle économique. T'sais, nous, on est propriétaire d'une microbrasserie en région. Évidemment, parce qu'on a des stations de radio, évidemment, on a de la portée, notre bière se vend, on est dans 1200 points de vente, etc., etc. Donc, c'est pas compliqué. La clé pour moi, c'est d'être capable d'aller chercher des marchés qui sont intéressants, de pouvoir travailler avec eux, faire des partenariats locaux. Et pour moi, ça a une valeur extraordinaire. Donc, si on avait d'autres occasions, on les prendrait, mais c'est certain qu'on va être sélectif.
Bon, évidemment, ici, première n'est pas encore à vendre jusqu'à ce que M. Poilievre prenne les rênes, évidemment, du pays. Mais s'il y a de quoi que ce soit, on vous fait signe. En attendant, vous savez quoi? Je vous fais confiance en tant que gestionnaire parce que Nathalie nous a raconté que vous l'aviez mis dehors à une certaine époque. Et je me dis, quelqu'un qui a la préscience de sacrer Nathalie dehors, vraiment, c'est quelqu'un qui sait gérer ses talents. Ça, je vous le dis.
Mais savez-vous quoi? Par contre, Nathalie m'a dit plus tard, quand même, m'a dit que ça n'avait pas été nécessairement une mauvaise chose pour elle, Nathalie. Donc, quand même. Et ça change rien au fait que j'avais beaucoup de respect pour Nathalie.
Oh. Ah ben, on en a tous beaucoup de respect pour Nathalie, mais qu'est-ce que vous voulez, on n'aime pas ça la traiter comme du monde. Je ne sais pas ce qu'elle nous fait, c'est vraiment quelque chose. En attendant, Sylvain Jeanberland, merci énormément de nous avoir parlé. Merci de sauver aussi la radio régionale. On est des amoureux de la radio ici à Radio-Canada, évidemment, fait que pense que c'est un travail qui est important. Merci beaucoup, Sylvain Jeanberland.
Absolument. Merci beaucoup pour l'entrevue.
Au revoir.
La grande vadrouille à Petrovski.
Alors, c'est sa dernière chronique avant qu'on la sacque dehors pour son bien-être, évidemment. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi, qu'on vous sacque dehors d'ici pour que vous puissiez, je ne sais pas, nager ailleurs.
On verra.
Ah, toujours.
Non, mais c'est vrai que j'ai dit à Sylvain, ouais, dans le fond, t'avais raison.
Est-ce que c'est vrai?
Oui, ben hey,
on
oui.
On a peu cette version-là tantôt, mais
non,
dans prologue.
Non, mais j'étais chroniqueuse culturelle à 5h du matin. Non, mais tu sais, je n'ai pas l'arc-en à 5h du matin. Ça n'avait pas d'allure. Alors, puis en plus, je n'étais pas capable de rien enregistrer. En tout cas, bref. Alors, je vous parle.
Il était plus patient qu'on pense. Allez-y.
Je vous parle de la grande messe de dimanche, du Super Bowl. Ouais. Alors, vous savez qu'il y en a qui pensent que ça s'appelle le Super Bowl et qu'en fait, c'est une immense toilette de nettoyante, voire un bidet.
Qui pense ça?
Mais pas moi, certainement. Moi, je sais que le Super Bowl, c'est un complot masculiniste pour mousser la vente des croissants de Laurent Duvernay-Tardif.
Sortez de ce corps.
Bon, c'est pas vrai. Alors, le Super Bowl, c'est une grande tradition américaine, comme la dinde à l'Action de grâce, et qui remonte, ça, je le savais pas, à 1967, année de la fusion de la NFL et de la AFL. Oui. Et donc, c'est ça. Et ça a été diffusé, donc, la première fois, en 67, sur CBS. Puis après ça, ils se sont... Parce que chacun avait l'équipe, là. T'sais, enfin, pas l'équipe, mais la gang, là. Quoi. Vous me comprenez, c'est pas grave.
L'événement. On va dire oui pour passer à d'autres choses.
C'est ça, exactement. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, non, moi, je regarde pas Super Bowl. » Oui, je le regarde juste pour les pubs.
Oui.
Et franchement, parce que le Super Bowl serait le Noël des publicitaires, alors que le Bye Bye, lui, il est le Super Bowl des publicitaires. Fait que je suis un peu perdu là-dedans. Quoi qu'il en soit, moi, je vois vraiment pas l'intérêt de regarder une gang de gars en leggings serrés, courir entre deux publicités. Publicité...
Jean-Sébastien serait...
C'est vrai. Publicité dont les coûts de production pharaoniques pourrait nourrir les populations de la Somalie et de l'Afghanistan réunies et pas juste en ailes de poulet.
Alors, ils font de l'argent avec ça aussi.
Sauf que cette année, paraît-il que les pubs vont avoir de la grosse compétition. Ils vont prendre une image parce que ce que les gens vont vouloir voir, c'est la fille qui a osé snobber notre Céline nationale au Grammy. J'ai évidemment nommé Taylor Swift. Le gros suspense de dimanche, c'est Taylor va-t-elle réussir à revenir à temps de Tokyo pour voir son chum?
C'est Travis.
Elle
est à Tokyo.
Alors, parce qu'elle est à Tokyo. Mais l'ambassade du Japon aux États-Unis a répondu oui, il n'y a pas de problème. Parce que malgré les 17 heures de décalage entre Tokyo, parce qu'elle donne un show à Tokyo le samedi soir. Okay. Malgré les 17 heures de décalage entre Tokyo et Vegas, malgré le trajet de 1h25 entre Tokyo, le Tokyo Dome et l'aéroport de Narita, et malgré les 12 heures de vol, comme Taylor Swift ne voyage pas à bord de l'avion gouvernemental de Justin Trudeau, elle va arriver à temps. Arrêtez de capoter avec
Mon
ça.
Dieu, j'espère qu'elle ne sera pas en économie, qu'elle puisse dormir.
Je prédis donc que Taylor Swift ne ratera pas son avion. Et autre prédiction, les Américains vont manger 1,450 milliard d'ailes de poulet contre 76 millions d'ailes de poulet qui seront consommées au Canada. Ce qui fait que...
On a-tu déjà parlé, ça?
Hein?
Dans les chroniques sur le Super Bowl, là, c'est déjà arrivé qu'on en parle?
Jamais. Okay. Oh. Mais ça signifie quand même qu'il va avoir 760 millions de poulet sacrifié sur l'autel du football américain. Je trouve ça honteux. Personnellement, moi, je regarde le Super Bowl pour le spectacle de la mi-temps, comme mon ami ici, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, spectacle où les Américains se sont déjà énervés le poil des jambes en 2004 pour un furtif mamelon révélé accidentellement à cause d'un mauvais velcro.
Accidentellement.
Ah, écoute. Seigneur, non, non, mais revenez-en de la maudite mamelon puis du velcro. Cette année, c'est Usher. C'est Usher. Usher. Usher, c'est qui ça?
Voyons
en
donc.
En fait, Usher, c'est.
Hey, moi, je m'en vais.
Usher, moi, excuse-moi, là, c'était un genre de revenant.
Usher, c'est pas un nobody.
Pour ne pas dire un espèce de has-been. Écoute, ça fait 7 ans qu'il n'a pas sorti de disque. Et en plus, il est à Vegas, la place où tout le monde meurt.
Ben, Céline est à Vegas.
Ben, Céline n'est plus à Vegas.
Elle a été longtemps.
Oui, je sais.
Elle l'a remis sur la map. Bref.
C'est ça. Oui, alors, Usher, pour vous dire, il est tellement big qu'il y a eu un très gros hit, qui était une chanson d'une grande profondeur philosophique et poétique, dont le titre était Yeah! Yeah! Yeah!
C'était une grosse toune. C'était une grosse toune.
Cela dit, c'est un monsieur entertainment. Il chante, il danse, il a des abdos de feu. D'ailleurs, on peut voir, il serait bien content, Jean-Sébastien Girard, on peut voir ses abdos... on peut voir ses abdos dans une pub de bobettes dessinée par Kim Kardashian.
Oui, les Skims.
Sauf qu'à mon avis, je sais pas si tu l'as vu la photo, mais ça ressemble aux couches Almost Invisible de Creton dans La Petite Vie. Bon, mais il est mignon et il va probablement donner un bon show que je vais regarder si je suis pas trop occupée à m'empiffrer d'elle.
Voyons. Mais oui.
Voilà. Hey, t'as 4 minutes, Hugo.
Hey, qu'est-ce qui se passe?
Ah, mon Dieu, finissez ça là-dessus.
Oui, ça c'est
fini.
Oui, c'est fini.
Bon, mais là, on n'en a pas parlé. Là. Oui? Qui va gagner, Nathalie?
Les Chiefs.
Oui.
Mais vous, Jean-Philippe, c'est quoi votre prédiction?
Ça va être les Chiefs. Yes. Ça va être plate.
Là, on va voir Taylor sur le terrain.
Ah, ouais, mais ça va être plate. D'ailleurs, est-ce qu'on fait une gageure? Est-ce que Taylor Swift touche au trophée?
Ah, c'est sûr.
Oh mon Dieu.
Hey, dès qu'il y a un trophée, Taylor, elle l'arrache des mains de tout le monde.
Vous avez raison. Vous avez tellement raison.
C'est vrai. Hey, là, on regardera personne avant le prendre.
Elle mangera du poêle, Céline Dion. Bon, vous nous parlez de Raël. Oui. C'est la nouvelle série sur Netflix disponible depuis cette semaine.
Hey,
bon.
Je suis frugaux présentement de ça.
Ah oui, vous êtes frugaux?
Hey, j'ai regardé ça, j'étais tellement frustré. Ben qu'on parle encore de ce clown-là. Ouais. Quelle espèce d'imbécile heureux. Avec sa mauvaise couette, son kit de Capitaine Cosmos, il m'énerve, il m'écœure, il est laid. Et là,
et maintenant, il est vieux.
Il a 77 ans. Et là, il est bon. Je vous donne pas le punch. Il est pas mort. Il habite au Japon. Il a recommencé encore les Raéliens au Japon. Il s'est marié avec une jeune femme.
Japonaise?
Un peu niaiseuse qui voit en lui la réincarnation des extraterrestres.
Est-ce qu'elle est japonaise?
Elle est japonaise et elle parle pas très bien anglais dans le documentaire, ce qu'on voit, donc ça doit l'aider. Elle comprend pas ce qu'il dit, fait qu'elle est comme let's go. Mais je dois vous préciser que c'est une docu-série de 4 épisodes sur Netflix, Nathalie. Okay. C'est sur Netflix, je vous le précise.
D'accord.
4 heures, mais faites par des Français.
Oh.
Donc, on revient au début de l'histoire de Raël, comment ça a commencé. Il est rentré dans sa coupe volante, il y a un escalier qui est descendu, il y a dîné avec Mahomet, Bouddha et tout
Dieu,
ça.
C'est ce qu'ils ont mangé, c'est
ben c'est ça. Et là, il nous raconte ça, on est comme, mais qui c'est qui a cru à cette affaire-là? Puis il est comme, oui, la planète des Elohim, il y a des beaux petits écureuils avec des têtes d'oursons multicolores. Je suis comme, mais juste ça, en partant, on aurait dû dire, va-t'en, reste chez vous, on ne te donnera pas une scène. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Mais là, ça a commencé fin des années 70. Là, il nous explique comment Raël est devenu big. Là, il a fait une espèce de campement dans
Après
France.
Après avoir été une vedette de la musique pop.
Il imitait Jacques Brel.
Oui,
mais
en fait,
c'est épouvantablement mauvais.
C'était une copie de Jacques Brel.
C'est ça, là, on voit qu'il imite Jacques Brel. Il est pourri. Il a été pilote automobile. Il a été journaliste. Ça ne nous aide pas à redorer notre réputation. Ça devient intéressant quand la France le met dehors parce qu'ils ont des lois plus strictes que nous sur les sectes.
Puis qu'il s'en vient
au Québec. Il s'en vient ici, tabarouette. Là, il s'en va à Valcourt, le UFO Land. On recommence l'histoire qu'on sait tous, là, qu'on a tous vu ça. Et là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a ramené, je ne sais pas si vous vous souvenez de Brigitte McCann, la journaliste du Journal de Montréal, qui avait infiltré les Raéliens. Elle est là, elle témoigne dans le documentaire. Et c'est une des rares qui dit hey, c'est un maniaque. Ce gars-là, puis je peux pas croire que des gens intelligents, parce que c'était pas tous des sautés dans la sec, il y avait des gens
mais
très
éduqués.
Mais on a éduqués,
vu le documentaire avec les deux filles, là, avec
on
ses esclaves
sexuels. On n'apprend pas rien de plus que ça, là, la sec des anges, que Raël se faisait embaucher des anges pour s'occuper de lui et pour lui dire oui à toutes ses demandes sexuelles. Et n'oubliez pas que la mission des Raéliens, c'était de bâtir une ambassade avec une piste d'atterrissage pour accueillir les extraterrestres dans leur soucoupe volante. Mais qui croit encore à ça? Parce que
mais
dans le
fait, ça,
c'est pas fait encore. Et on sait pas l'argent.
Ben ouais, c'est ça
l'argent
c'est ça.
Est où? Parce que les gens donnaient 10% de leur salaire à Raël. On sait pas où ces millions-là sont passés. Et moi, la personne qui me l'a plus terrifiée, c'était pas elle, c'était Brigitte Boisselier. La madame maniaque, la chimiste qui avait cloné le bébé. Ils l'ont retrouvée au Mexique et elle est encore...
Non, c'était un bébé à l'époque.
Qui s'appelait Eve. Mais là, on la voit, elle habite au Mexique dans une espèce de grande villa. Mais qui a payé ça? Ben, c'est ces pauvres crétins-là qui l'ont suivi. Mais crétins, je m'excuse, mais crédules, disons ça. Mais oui, mais bref, c'est assez ordinaire. Si vous avez, vous en savez un petit peu sur elle, passez votre tour. Donnez pas de clic à ce maniaque-là.
Ah, voilà, mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas une scène non plus en diffusion.
Il y en a encore. Il y en a de collés.
Mon Dieu, ça, mon Dieu. En même temps, peut-être que Nathalie, ça vous ferait de quoi faire de croire à ça. Hein? On vous aime. À demain.